Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien en cette saison des tiqueurs à
cannelle. Oui, tiqueurs à cannelle. Ouais, moi, je suis moins que... Moi, c'est la tempête qui s'en vient qui m'intéresse.
Elle t'intéresse?
Ah, écoute, là, pour moi, ce matin, t'es le premier flocon de la tempête.
Ah oui! Est-ce que tu me trouves énergique?
Oui, t'es très énergique.
Oui. On va garder ça énergique pour les 60 prochaines minutes. Emmanuel Robitaille, Robert Blondin avec vous. On en profite pour aimer la vie, oui, pendant ces 60 minutes. Et on aura la visite en studio d'Hugo Lavoie, journaliste à Gravel le matin, parce que en ces journées qui entourent cette 8e édition de la Journée mondiale de la radio, à la radio, on la salue bien haut et bien fort.
Mes hommages.
Le légendaire Bob Marley avec la chanson Roots Rock Reggae qui nous invite, la chanson le dit, play some reggae music, jouer de la musique reggae. Et c'est pas pour rien que je vous ai fait jouer cette chanson ensoleillée, oui, entre autres parce qu'il annonce de la neige, puis ça nous tente plus, ça nous a-tu déjà tenté?
Oh, il y en a qui aiment ça.
C'est vrai, ceux qui font du ski de fond. Puis de la raquette.
Ou qui rêve d'en faire.
C'est ça long. Mais oui, c'est le reggae a été popularisé par cette icône qu'on vient d'entendre. Et c'est en novembre dernier, donc en novembre 2018, que l'organisation, l'UNESCO, en fait, a officiellement reconnu le style musical reggae comme patrimoine culturel de l'humanité.
Ah, oh, pas juste de la Jamaïque?
Non, non, non! All over the world! Et je trouve ça vraiment beau parce que ce style musical-là a été reconnu par ses messages porteurs d'amour, porteurs d'humanité, en plus de sa contribution à la prise de conscience sociale sur les injustices et pour la résistance, selon l'ONU. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment le fun.
Mais tu penses pas que Bob Marley a une figure un peu de prophète que des gens vénèrent comme si c'était Jésus-Christ?
Tu trouves?
Ouais.
OK, tu trouves ça malsain?
Bon, moi, les icônes des dieux sur Terre, pas très, très fort là-dessus. Là. Mais tu vois, à travers le monde entier, là, j'en ai vu partout, des T-shirts Bob Marley puis tout ça. Comme si c'était vraiment un dieu, hein, porté par des gens au cœur d'Afrique, ça n'a rien à voir avec le reggae.
Non.
Ils vont pareil.
Oui, oui. Mais je pense que cet humain-là avait un message très clair. Il a fait la différence à plusieurs niveaux. Et je pense en quelque sorte que cette personne-là avait un message particulier à donner à la Terre. Et il a été reconnu pour ce qu'il est. Maintenant, je pense pas qu'il amenait... Moi, quand on n'amène pas à faire quoi que ce soit, à payer quoi que ce soit, tu sais, il n'y avait pas de contribution.
Mais c'est quoi le message dont tu parles? Je ne suis pas sûr de l'avoir compris.
C'est vrai?
Oui, moi j'ai l'impression qu'il me dit « fumer de la marine ».
C'est vraiment un message de paix. Le reggaeton, okay. Et là, je veux pas... parce que c'est vraiment un mouvement. C'est pas un mouvement, c'est une culture. C'est un « life style », le reggaeton. On n'a pas beaucoup de temps, j'aimerais en revenir. Et surtout que je ne suis pas reggaeton moi-même. Donc, je ne veux pas enlever ces lettres de noblesse. Je ne veux pas être simpliste ou minimisé, mais en gros, sincèrement, c'est tellement de base, là. C'est revenir à l'essentiel. C'est aimer son prochain. C'est collaborer, collectivité, coopération. C'est la paix, c'est l'amour. Et c'est très peace and love. Ça le dit, paix, amour, joie, mon frère. Donc, je te reconnais en tant que mon frère. Soyons tous ensemble.
T'as pas loin de penser que c'est un espèce de Jésus-Christ moderne.
Hein? Ça ressemble un peu à ça. Et ça rassemble les gens, tout simplement. Donc, bref, nouveau patrimoine culturel de l'humanité. C'est vraiment... C'est pas peu dire, je te dirais. Peux-tu me dire de même? Et je sais pas si tu as vu passer ça cette semaine. Je voulais en parler de ça parce que c'est pour moi... Je sais pas si c'est une première, je peux pas dire ça parce que je suis pas au courant tant que ça, mais c'est du presque jamais vu, du très rarement vu. Elon Musk, qu'on connaît bien comme PDG de Tesla, visionnaire, multimilliardaire, philanthrope, Dieu peut-être, hein, tu parlais de Dieu, mais...
On se calme.
il a annoncé, oui, il y a quelques jours... Seulement que tous les brevets de Tesla, qui est le constructeur de véhicules électriques qu'il a fondé, seraient désormais dans le domaine public au nom de la lutte contre le changement climatique. Donc, il n'y aurait aucune poursuite judiciaire qui serait intentée auprès de quiconque qui veut utiliser ces technologies-là en toute bonne foi. Fini la chasse gardée de la connaissance, on pense au bien commun au-delà de l'ego, de l'érudition et du statut. Je capote, c'est rare. C'est rare. Et pour Elon Musk, et les brevets, selon lui, servent à freiner le progrès. Donc, bravo à lui de partager ses découvertes, en fait. Et là, j'ai vu quelque chose d'autre passer. Je ne sais pas si tu l'as vu ou si vous l'avez vu à la maison. Cette idée de Wi-Fi gratuit partout pour tous. Je n'ai pas approfondi. Je ne sais pas si la machine à rumeurs est partie et on a commencé à beurrer les toasts d'Elon Musk parce que ça se pourrait aussi. Là.
Tout est possible, mais souvenons-nous que rien n'est gratuit non plus. Si c'est gratuit pour tout le monde, qui paie pour l'infrastructure? Amazon, Google, qui vendent la publicité et des renseignements personnels.
Ouais.
Nous, à travers la publicité, quand on achète des produits.
Moi, ça, en tout cas, il faudrait qu'on en parle. Mais oui, c'est sûr que ça dépend quelle menace tu vois dans...
C'est jamais aussi gratuit qu'on pense.
Oui, sauf que ça peut changer, ça. Je pense qu'à la minute où on va accepter que des choses soient gratuites, Nikola Tesla nous a donné l'électricité gratuite il y a beaucoup de temps. Puis, ouais, faudrait pas... Allez, on va aller en musique là-dessus. François Baruel, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Comment vas-tu?
Très bien, et toi?
Très bien, le mois de février, c'est mon mois préféré.
Ça y est, le printemps s'annonce bientôt,
entends-tu,
on y pense.
Mon sarcasme?
On se dit que dans 3 mois, il sera là.
C'est ça. Écoute, aujourd'hui, tu viens nous parler d'un mot compliqué. Un mot difficile, un mot compliqué que je me rappelle déjà même pas c'est quoi, mais qui a plusieurs syllabes. Vas-y.
Mithridatisation.
Mithridatisation.
Voilà.
Qui signifie?
Qui signifie une habitude d'absorber des poisons sans en subir les conséquences. En fait, il s'agit d'un roi qui avait très très peur, c'était un vieux roi, il avait très très peur qu'on l'empoisonne. Et alors, il a appris, il s'est mis à progressivement prendre des poisons à dose infinitésimale, presque homéopathique, et progressivement, il a augmenté les doses.
Pour s'habituer
à ça, parce que comme ça, il se disait, au fond, s'il y a des courtisans qui veulent me tuer, me faire avaler n'importe quel poison, je serais prêt et je ne mourrais pas. Le seul problème, c'est qu'il n'avait pas prévu ça. Donc s'il a très très bien marché, il pouvait avaler de la ciguë, il pouvait avaler du curare, il faisait ce qu'il voulait. Il était donc mithridatisé, il s'appelle Mithridate. Et donc il était invincible. Le seul problème, c'est qu'un jour, il a fait la guerre et il s'est trouvé... complètement perdu et perdant. Donc, il a voulu se suicider.
Ah, oh, puis ça marchait pas.
Eh ben non.
Hey, c'est pas drôle.
Alors, cette technique,
ben non,
on a
mais...
utilisé cette technique. Cette technique
il est devenu
utilisé.
Tolérant à un niveau tel.
Exactement.
Parce que nécessairement, quand on prend une substance, il y a des ramifications dans la substance qu'on prend psychoactive qui peuvent aller toucher d'autres affaires aussi. Là.
Bien sûr, c'est ça, c'est tout à fait ça. Le principe, c'est qu'en fait, on prend par exemple de la ciguë, paralyse.
C'est plutôt rare, c'est moins disponible.
Voilà.
Hein,
c'est moins disponible. Le curare aussi, d'ailleurs, il faut aller peut-être en Amazon.
Plus rare,
dans Amazon, c'est bien.
Oui, c'est ça.
Alors, en fait, cette technique a été utilisée, ce qu'on appelle, ça s'appelle l'immunothérapie orale maintenant. C'est utilisé finalement à Sainte-Justine d'ailleurs. On donne des produits progressivement pour habituer les enfants. Alors évidemment, c'est sous contrôle bien sûr. On leur donne sous contrôle médical des petites doses d'aliments qui sont allergisants. Et ils s'habituent progressivement. Mais il faut continuer d'en prendre, sinon le corps devient allergique, redevient allergique.
Donc, c'est quelque chose qui est à long terme. Mais justement, tu nous parlais de cette exposition au fromage chez les jeunes enfants. Mais ça, c'est la même affaire, finalement.
C'est exactement la même affaire. C'est toujours l'exposition précoce et progressive.
Mais on peut faire ça avec n'importe quoi.
On peut faire ça avec absolument n'importe quoi. Absolument. Mm-hmm. Enfin, presque. Il faut exagérer, quand même.
Non, c'est ça. Mais en tout cas, bonne nouvelle. Dimitrate, c'est quoi son nom?
Mithridate.
Mithridate.
C'est un grec.
Mithridate a été très bon et au moins, lui, il n'utilisait pas les autres autour de lui pour s'empoisonner à sa place parce qu'on sait que les rois, dans ce temps-là aussi, il y avait toujours comme un testeur. Hein? C'est vrai!
Mais bien sûr, il y avait le goûteur avant.
Il y avait le goûteur qui empêchait. Au moins, on pourra dire que ce roi a eu la décence de ne pas passer ses affaires sur le dos des autres. Voilà. Un mot, vu qu'on est en février, sur la vitamine D, pour oublier que ça va nous aider dans nos grippes.
Dans la grippe, ça aide très très bien dans la grippe chez les gens âgés, principalement. La vitamine D, ça aide aussi, mais dans un tout autre
registre,
c'est les femmes enceintes, lorsqu'elles ont suffisamment de vitamine D au moment de la conception du bébé, elles ont une grossesse, même si elles ont un peu moins de vitamine D après, mais au moment de la conception, elles ont une grossesse beaucoup plus facile et qui se passe très bien. Alors que quand elles n'ont pas suffisamment de vitamine D avant la conception, il y a des risques de perte de l'enfant pendant la grossesse. Ça, c'est aussi une chose qu'on ne connaît, qu'on comprend pas très très bien.
On parle beaucoup
mais...
d'acide folique pour le développement du fœtus.
Absolument.
Et on parle très peu de la vitamine D pour
Absolument.
La viabilité, en fait.
Mais ça ne change rien sur la fécondité.
Très important.
Ça, c'est important. Voilà, c'est ça.
Hein? Merci beaucoup, François.
Mais je t'en prie, Manuel.
À mon éveil au petit jour, je sais exactement où je dois m'aligner. Car j'ai pris l'habitude de programmer ma cafetière au moment du coucher. Je sors de la chambre, direction la cuisine, délicatement parfumée. Je ne peux plus attendre, papillon dans we'll be right back.
C-A-F-I-C-O-R-S-E. C-A-F-I-C-O-R-S-E.
Long débat qu'on a eu à micro fermé sur l'altruisme pur et toutes ces... ramifications possibles, dirais-je, dans tout geste, l'intention. Moi, je pense
que... Il faut juste rester conscient et pas faire d'angélisme.
Mais pas d'avoir de mauvaise foi non plus.
Non, bien
tout
sûr,
existe.
T'as raison.
Tout existe.
Il y a des choses qui existent plus que d'autres.
Et bien, moi, je pense que... Puis, tu vois, là, je réfléchissais, parce que des fois, je réfléchis beaucoup trop. Mais... je réfléchissais puis je me disais que aussi les temps changent. Les gens, on a vu beaucoup de souffrances à un moment donné. Les choses changent. Les gens, je crois, développent de l'empathie et avec la mondialisation qu'il y a eu, avec cette idée-là que tout nous reconnecte. Je pense sincèrement qu'il y a des changements de vision en termes d'altruisme et en termes de choix de vie. Je pense qu'on vient de plus en plus gentils, des vrais gentils. Je peux-tu dire ça?
Tu vis pas aux États-Unis, toi?
Ah, moi, je vis... ouais, mais ça... Mais comme... Puis là, tu sais, nous, on est vraiment les deux côtés de la médaille. T'sais, moi, je suis vraiment comme, je le vois, la beauté. Toi, t'as une espèce de cynisme, on en a parlé.
Surtout avec ce qui se passe aux États-Unis qui sont les maîtres du monde.
Ouais, mais moi,
on est du côté de l'enfer total.
Mais on va parler d'un homme à qui on peut quand même donner le bénéfice du doute.
OK, vas-y.
Va dépendre quelle source d'information on regarde. Mais on va regarder, oui, c'est ça, qu'on a regardé cette semaine Steven Tyler, qui est le chanteur d'un de mes groupes préférés, Aerosmith, et que j'ai été voir d'ailleurs sur les plaines d'Abraham au Festival l'été il y a quelques années et j'ai pleuré beaucoup. Mon conjoint de l'époque a filmé Dream On. Il a juste... Tu m'entends juste pleurnicher à côté. C'est vraiment désagréable comme vidéo. Et oui, Steven a ouvert une autre maison pour filles abusées et ayant vécu des traumas. Ça a été ouvert grâce au don de 500 000 $ qu'il a fait lui-même, mais c'est loin d'être son premier don. En fait, ça s'appelle la Janie's House. C'est une maison pour les 14 ans et plus. Et oui, c'est en lien avec la populaire chanson « Janie's Got a Gun ». Chanson de 1989 du groupe Aerosmith. Donc, la maison s'appelle la Janie's House. Elle se situe au Tennessee. Et Janie Got a Gun, c'est une chanson qui parle d'abus familial. Cette jeune fille-là qui a vécu des traumas dans sa famille. Et j'ai dit tout d'abord que Steven Tyler, c'était loin d'être son premier don. En fait, le Janie's Found et sa fondation qui existe depuis 2015 et via laquelle on peut cautionner cette cause-là, d'ailleurs, c'est la fondation via laquelle le chanteur aide les jeunes filles. Si on veut s'informer sur ce qu'il fait, c'est le janiesfound.org qui a été fondée 26 ans plus tard après la sortie du hit. Donc, un autre beau geste. J'ai découvert une bonne nouvelle également qui s'est passée en Italie cette fois récemment. Et elle risque de te plaire, Robert, et à tous ceux et celles qui ont des téléphones intelligents ou qui font affaire avec l'une des deux compagnies suivantes, Samsung ou Apple. T'entends-tu mon sarcasme?
Oui, j'écoute.
Alors, ça se passe en Italie, oui, Samsung et Apple ont été condamnés à quelque chose qui, moi, me répugne, l'obsolescence programmée. Donc, cette idée où maintenant nos frigidaires, nos laveuses, nos sécheuses, tout ce qu'on peut passer en revue qui était supposé durer 25 ans dure maintenant 4 ans et demi. C'est-à-dire qu'ils sont programmés d'avance pour ne pas fonctionner longtemps, pour assurer la surconsommation, le rachat et bien sûr, on connaît la suite. Et il y a d'autres façons, hein. on peut donner, on peut réparer, on réapprend à réparer les choses maintenant. Ça sera un beau retour à l'essentiel, on peut se le dire comme ça. Mais oui, c'est en Italie que le verdict est tombé. Les compagnies ont été reconnues coupables de pratiques commerciales malhonnêtes après une enquête qui a été menée par des autorités italiennes en janvier dernier, après avoir reçu des plaintes des consommateurs sous la loi antitrust, une loi qui s'oppose à l'entrave de la libre concurrence pratiquée par des groupements de producteurs visant à bénéficier d'un monopole, parce qu'on se comprend que rendu là, tu sais, c'est comme... Antitrust vise à réduire, voire à éliminer la concentration économique. C'est 10 millions d'euros que Apple et 5 millions pour Samsung que les compagnies vont devoir payer. C'est bon pour nos portefeuilles et c'est bon pour la planète. N'hésitez pas à parler, à vous plaindre. Ça peut faire changer les choses parce que c'est vraiment les plaintes des consommateurs qui ont fait que cet événement est arrivé, en espérant que ça fasse changer.
Si une poursuite peut aboutir en Italie, ça peut aboutir n'importe où.
Non, mais c'est vrai. Ben, tu sais, c'est quand même ça. Et je vous parle, Maurice, on s'en va à la pub bientôt, je crois, en une minute encore. Il y a une nouvelle plateforme Zéro Déchet qui vient de voir le jour, qui va voir le jour au printemps. Je voulais vous en parler, qui surprenamment implique cette fois plusieurs des plus grandes marques mondiales. Aussi rapidement qu'au printemps, on parle de Paris, New York, on pourrait manger de la crème glacée, se laver les cheveux en utilisant des contenants réutilisables. Ça s'appelle le projet Loop. On peut aller voir ça sur le loopstore.com. Tide, Axe, Dove, Cascade, Hellman's, j'en passe. Tu vois un petit gars d'UPS sur le site qui va aller porter une espèce de call avec plein de contenants réutilisables de toutes ces marques-là. Je trouve que c'est vraiment, vraiment brillant. À suivre. La vie se poursuit encore pour 30 minutes avec Emmanuel Robitaille, Robert Blondin, qui sourissent. Hein? Moi, je viens de Québec. On dit des fois, ils jouent. Tu gricherais des dents, Robert.
C'est déjà fait.
On passe en musique et au retour. On a de la belle visite en studio. Hugo Lavoie vient nous parler de la radio. My icy eyes home. C'était Charlotte Cardin avec la chanson Drive. Charlotte qui nous gâte de single après single, toujours aussi bon, aussi talentueuse. Une autre chose qui nous gâte aussi, c'est les Journées mondiales et internationales. Tu sais, Robert, que j'affectionne particulièrement ces journées de célébration.
C'est ton dada.
C'est un grand plaisir.
Les journées de la brosse à dents.
Journée
de toutes sortes de choses.
Mais à date, c'était quoi ma journée préférée à date? Ben, j'en ai eu plusieurs qui m'ont fait sourire, du moins.
J'en avais des crockers,
genre la journée du parler pirate. Mais cette semaine, en fait, une journée qui est hautement pertinente, surtout pour nous qui œuvrons auprès de ce médium qui est la radio. C'est le 13 février, la journée mondiale de la radio, qui est patronnée, oui, par l'UNESCO. On prend ces 24 heures-là pour nous saluer, tous les artisans, dirais-je, de ce médium de communication. Et remercier la radio comme vecteur d'information, mais elle est beaucoup plus que ça. C'est la 8e édition actuellement. Et on se rend compte qu'elle n'a pas le même rôle ici et ailleurs. Et pour tous, on ne l'utilise pas tous de la même façon. Et pour en parler davantage, on a avec nous Hugo Lavoie. Comment ça va?
Hey, bonjour, je suis assez content d'être avec vous.
C'est vrai, mais oui, on est très, très, très content que tu aies accepté l'invitation. Tu es journaliste à Gravel le matin, tu nous offres toujours une chronique urbaine. Mm-hmm. Tu t'entretiens avec des gens de partout qui nous racontent des histoires très humaines.
Oui, j'essaie de raconter des histoires qui ne sont pas entendues ailleurs ou parler à des gens qui ne parlent pas souvent dans les médias pour justement amener un point de vue un peu différent à la radio d'État.
Et ça, c'est un point de vue de radio, hein? Un rôle de radio absolument essentiel.
C'est vrai, parce que la radio a l'avantage, tout étant relatif, il y a une limite de 24 heures, mais a l'avantage d'avoir plus de temps que d'autres médias.
Ton approche de parler à des gens qui n'ont pas accès au micro, c'est aussi un antidote à cette mode qu'on a, très, très détestable, à mon avis, de des vedettes qui rencontrent des vedettes, là.
C'est vrai. Je ne peux qu'être d'accord avec vous. En ce moment, j'ai l'impression que toutes les émissions, s'il n'y a pas un concept de vedette dans l'émission qui vit une expérience, une vedette qui nous amène dans son chalet, une vedette qui fait que on dirait qu'on n'est pas capable de réfléchir en dehors du cadre de la vedette. Puis c'est vrai que c'est dommage et pourtant, il y a tellement de gens, je veux dire, qui ont des histoires à raconter. Et d'ailleurs, tu es bien placé pour le dire, Robert Blondin.
En effet, deux, trois.
Parce que là, tu sais, il faut que je le dise, ils ne vont pas faire semblant. Là, ce que je peux
il y a un moment
dire,
ici d'anthologie qui se passe pour toi.
Parce que
pour Robert.
Bien, moi, en tout cas, je suis un fan de Robert Blondin depuis longtemps. Puis je dirais fan, tu sais, je
connais
pas.
C'est peu dire.
Non, mais je veux dire, je connais pas tout ce que tu as fait, mais il y a des moments qui m'ont vraiment marqué comme journaliste et comme gars de radio. Et celui dont je me rappelle le plus, c'est drôle, parce qu'il y a des fois une image qui marque, puis tes émissions ont toujours été comme ça, en fait. C'est des images à la radio. Et évidemment, l'émission L'Aventure, c'était de quelle année à quelle année, à peu près, ça, L'Aventure?
Ça a duré 19 ans.
19 ans! Bon, ben, je peux bien avoir pogné 2-3 émissions, comme on dit. Mais un des éléments qui était géniaux là-dedans, c'était évidemment de choisir un sujet par émission, contrairement à tellement d'autres émissions qui sont toujours des émissions...
Un sujet par semaine.
Par semaine, oui, c'est ça, parce qu'il y avait... On suivait effectivement l'histoire. C'était tous les jours. Hein?
Tous les jours.
Oui, oui. Et on suivait donc un thème, contrairement à toutes ces émissions où on a justement des petites chroniques de 2 minutes, 1 minute, puis tout est découpé.
Tu sais, quand on nous disait, je vais pas t'interrompre, mais je pense qu'on a compris le message aussi.
Ouais.
Quand on nous disait, tu t'es fait dire ça, je sais pas combien de fois aussi, comme moi, « Ah, oh, vous savez, après 7 minutes, une étude nous dit que c'est des gars... » Moi, j'ai toujours demandé, sortez-moi là, non, cette étude-là, puis après ça, je vais le faire.
Est-ce que vous l'avez déjà
eu? Si on peut parler du même sujet pendant 50 minutes avec des fois pas de toune pantoute pendant l'interview, et les gens adoraient ça quand même.
Alors, c'est intéressant.
C'est a priori-là. Ouais. Ouais.
Et ça faisait quoi, 5 heures sur un sujet?
5 heures sur un sujet, et dans l'ensemble de la série, j'ai fait 720 sujets de 5 heures.
Donc, il y avait vraiment une continuité, une profondeur, un temps qui était alloué, qui était accordé. On y mettait de l'amour, Robert.
Puis l'autre élément...
Je le prends.
C'est vrai.
Mais l'autre élément qui m'a vraiment frappé, c'est le fait d'être dans certains cas, ça dépend des contextes, là, mais dans certains cas, sur le terrain. Et en contexte.
Toujours.
Et moi, j'ai cette image-là de l'émission sur la Grèce antique, où, je ne sais pas avec qui vous étiez, c'est un spécialiste de la Grèce antique.
Henri Barras.
Bon, et puis vous étiez assis à quelque part. Moi, en tout cas, dans ma tête, je vous ai imaginé dans l'herbe, assis en haut d'une colline qui surplombe le Péloponnèse.
Attends, à côté de l'Acropole.
Bon.
Les vieilles colonnes de l'Acropole.
Et là, on entendait un peu le vent, on entendait de l'ambiance, et puis on avait l'impression d'être là avec une description de ce qui se passe, des bateaux qui rentraient, qui sortaient de la baie. C'était, écoutez, je me suis dit à ce moment-là, peut-être pas, je dirais, consciemment ou de façon intellectuelle, mais je pense que je me suis dit, il faut que j'aille dans cette direction-là, il y a quelque chose-là.
Alors, puisque tu y es dans cette direction-là, dis-nous ce que tu fais maintenant. C'est quoi la radio pour toi maintenant? Tu fais partie de Gravel le matin, ça c'est une chose. Mais toi, personnellement, avec la radio, c'est quoi?
Moi, en ce moment, ce qui m'allume le plus, et c'est pour ça que j'ai l'impression que la radio se renouvelle en ce moment, et puis il y a quelque chose de très encourageant, je suis très intéressé par beaucoup de balados qu'on entend, et j'essaie de raconter les histoires le mieux possible. Vous allez me dire, c'est banal un peu de dire ça, mais j'essaie d'amener les auditeurs à chaque fois dans une certaine ambiance et raconter une histoire, et puis d'amener le projecteur à quelque part où il n'y a pas d'habitude. Quand j'ai rempli ces deux, trois fonctions-là, ces deux, trois éléments-là dans mon reportage, évidemment, tout ça se passe en 3 minutes le matin, hein, parce que c'est une émission d'actualité, tout va très vite. Ben, c'est ce que, en tout cas, j'essaie de faire et d'amener à l'émission. Et j'essaie des fois de mettre un petit peu de musique, un petit peu d'ambiance pour que les gens embarquent dans cette histoire-là, même si elle dure 3 minutes seulement à la radio.
Ça ne tenterait pas de faire, au lieu de 3 minutes, 1 heure?
Oui.
L'appel est lancé. Il est intéressé.
Ah oui,
moi, je vais te lancer un autre défi.
Ouais.
Okay? Je suis le vieux. Moi, tu es encore jeune dans l'affaire.
Tout heureusement
pour toi, tant mieux pour toi. Je n'en peux plus des formules à la radio qui sont les formules que tout le monde emploie. Même qu'à l'UQAM, j'ai assisté, j'ai pas donné des cours. Tout le monde pense que c'est quoi la radio? Mm-hmm. La radio, c'est un animateur, des collaborateurs autour à qui on donne la parole,
autour
de la table ronde. Et quand un dit quelque chose de drôle, on rit, puis on essaie de rire à trois pour montrer qu'on est là. Je suis plus capable de cette formule-là. Elle n'est pas mauvaise en soi.
Non,
mais tout le monde ne fait que ça.
Mais c'est que ça.
Y a-t-il moyen de faire d'autres choses?
Ben, je suis, ma foi, je ne peux qu'être d'accord. Je sais qu'il y a des efforts qui se font là à différents endroits pour changer la formule. D'abord, à Radio-Canada, il y a les balados justement qui permettent ça. Je pense qu'il y aurait... Et ça se fait, ça va se faire de plus en plus. Là. Je sais qu'il y a des idées qui s'en viennent pour essayer que ça soit plus perméable entre les balados et la radio. Et donc, il y a peut-être moyen d'aller dans ce sens-là, mais c'est ce qu'on entend de plus en plus. Moi, j'écoute beaucoup par ailleurs. J'écoute les balados de Radio-Canada. J'écoute aussi le balado du New York Times, par exemple, qui est très populaire. Et eux prennent un sujet en 20-25 minutes et ils développent une histoire qu'on suit. Comme ça, avec des archives, avec
de l'ambiance. C'est quoi la définition de la radio que j'ai le mieux retenu après
non,
toutes ces années?
Non.
C'est que la radio, non, c'est dire quelque chose à quelqu'un.
Ben oui.
Pour les nuages qui font de l'eau, le petit air volé au vent et qui parfume le bleu du soir, les yeux fermés pour mieux rêver, il joue tout pas au misola. Monica.
a trouvé au fond de lui. Et il reprend ce nouvel air indifférent à tous ces gens. Debout à l'ombre, il ne sait pas que la musique aura son cœur.
Parle de ce beau médium qu'est la radio dans le cadre de la Journée mondiale de la radio le 13 février, 8e édition, avec Hugo Lavoie, journaliste à Gravel le matin, qui nous offre des chroniques urbaines. Et on s'est laissé sur cette idée que être derrière un micro de radio, ce n'est pas toujours dire, c'est surtout raconter quelque chose à quelqu'un. Et toi, ce qui est marquant dans ton expérience radiophonique, du moins, c'est toute cette permission à l'intimité que ça donne.
Oui, je pense que c'est intime des deux côtés, des deux bouts du tuyau. Ouais. Je pense c'est intime quand on est auditeur, parce que on se retrouve des fois en faisant d'autres choses, puis on a le son, surtout quand on a des écouteurs, on a le son qui est tout proche de nos oreilles, puis les gens nous parlent, et puis il y a quelque chose de très intime.
Je vais t'interrompre tout de suite, puis quand tu gardes ton idée,
oui, je garde mon idée,
j'ai l'exemple parfait pour dire à quel point c'est intime. Regarde le micro que tu as devant la bouche, j'ai devant la bouche. Il est à 6 pouces de ma bouche, il est à 6 pouces de ta bouche. Qu'est-ce que c'est qu'un micro? C'est l'oreille de l'auditeur.
Imagine.
T'imagines-tu que tu peux crier à 6 pouces de quelqu'un? Et le problème de beaucoup d'émissions, magazines, il y a plein de monde, c'est que les gens se parlent entre eux à 5 à 6 pieds de distance avec la même projection de voix quand le micro est à 6 pieds. C'est intime, la radio.
C'est vrai.
C'est donc un médium chaud, tandis que la télévision, c'est froid, parce qu'il y a la distance et que tu regardes ça passivement. La radio, ça s'écoute activement. Fin de la parenthèse.
Ben, c'est même pas une parenthèse. C'est fondamental dans la radio. Ça s'écoute activement. Ça, c'est aussi quelque chose de fondamental dans la radio, parce que, et c'est ce qui, à mon avis, puis on pourra y revenir, mais qui va assurer l'avenir de la radio. Parce que jamais on pourra écouter une image ou regarder des images en faisant, en se promenant en voiture, ou peut-être éventuellement si on n'a plus besoin de la conduire, mais pardon, en marchant ou en faisant...
L'attention divisée est beaucoup plus réaliste et fonctionnelle, on va se le dire.
Mais il y a une intimité, puis ça, je voulais venir aussi dans le travail du journaliste ou de la personne qui va interviewer les gens. Ça, je dois vous le dire qu'à tous les jours, et encore ce matin, j'essayais d'expliquer, de convaincre, entre guillemets, quelqu'un de se faire interviewer par mes bons soins. Et on cherche des arguments, ou en tout cas, on essaie d'expliquer ce qui va se passer pour que la personne soit rassurée. Puis là, qu'est-ce que je dis généralement? Mais c'est toujours, c'est la radio. Je vous rappelle que c'est la radio. Et donc, ça veut dire qu'on va se retrouver à deux personnes avec un micro. Il n'y a pas de projecteur, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de deuxième non plus technicien. Et puis, on est vraiment là à deux et on a le temps. Et puis,
on n'a pas cette habitude et quand on ne fait pas le choix d'être une personne publique, c'est un bon...
Ça, c'est vrai.
Une belle option.
Et on peut plus difficilement mentir à la radio qu'à la télévision. C'est plus facile de distraire à la télévision de la vérité qu'à la radio.
Bien, je pense que oui. Si vous avez raison.
Cette importance du son, finalement. Quand on regarde en psychologie, savais-tu que les aveugles, les aveugles sont moins tristes que les sourds?
Ah oui?
Le son
est
plus important pour l'équilibre de l'être humain que la vue. La radio, c'est le son.
Je ne savais pas, mais je suis... bien content de l'apprendre. Puis je ne suis pas surpris, au fond. Au fond, parce que c'est vrai qu'il y a une telle importance au son qui nous entoure. Mm-hmm. Quand on le coupe un instant, ça change la vie.
Mais quand on parle de communication, on parle du verbal, de non-verbal, mais on parle aussi de paraverbal. Et le paraverbal, c'est tout ça. C'est le grain de voix, l'intonation, le débit.
La petite hésitation.
Exactement. Et c'est ça qu'on perçoit. On est en contact directement avec ça. Et on parlait d'intention en début d'émission. Hein, c'est un petit peu ça. Là. On revient directement à cette intention-là. Moi, je pense qu'elle est dénudée un petit peu.
Je rêve d'une radio qui reviendrait à ce qu'elle a déjà été. Mais évidemment, tous les vieux sont nostalgiques. Je suis vieux, j'ai le droit d'être nostalgique.
Robert, que c'était mieux dans ton temps.
Non, mais je pense qu'Hugo va très bien comprendre où je veux aller avec ça. Moi, je suis de l'époque où on avait une certaine notoriété parce qu'on faisait de la radio avec une certaine efficacité et une certaine excellence. Oui. Maintenant, on essaie, pour être d'avoir de la notoriété, on fait de la radio. C'est pas la même chose du tout.
Non. Il faut dire que non seulement ça existe un petit peu, mais aussi il y a cette tendance à mettre des gens qui ont fait de la télé à la radio. Parce qu'on veut d'abord qu'ils soient reconnus et puis qu'il y ait un élément de publicité.
Ça, c'est le bug.
On parlait de la popularité.
Des directeurs de radio, particulièrement à Radio-Canada.
Ah, ben ailleurs aussi, hein, sur toutes les radios matinales, c'est des vedettes.
Mais c'est parce que j'ai été témoin du passage Radio-Canada. On est passé de l'excellence au culte de la cote d'écoute. J'ai connu ça, oui.
Parlant de passage, vous êtes deux animateurs qui avaient vu de l'eau couler sous les ponts. Robert, un petit peu plus.
Un plus que l'autre.
Mais quand même.
Mais c'est la même mot.
Mais
c'est
quand
la
même, même l'évolution de l'apport positif de la radio à travers les années, qu'est-ce qui a changé, selon vous, mais qui reste une belle lumière de ce médium de communication-là?
Je vais peut-être faire une parenthèse pour dire que c'est pas toujours positif. Hein. Ça dépend
absolument
ce qu'on
pas.
Dit
comme,
à la radio.
C'est comme tout, là. C'est un choix.
Ouais, je veux dire, dans le monde, cette journée internationale de la radio, on parle beaucoup de la paix et de l'apport pour la paix de la radio.
Et le thème, je vais juste rappeler aux auditeurs, le thème précis, c'est dialogue, tolérance et paix.
Oui, mais ça a été un médium de haine aussi. Ouais. La radio commençait au Rwanda.
Au Rwanda, c'est ce que j'allais dire. C'est
effectivement
effrayant.
Et donc, puis on sait que dans certaines radios, des radios d'extrême droite ou de droite de différents niveaux, il y a des messages qui sont parfois pas les meilleurs.
Mais je pense que si on regarde rétrospectivement les bons coups de la radio, en tout cas dans nos territoires à nous, ça a été beaucoup un phénomène d'éducation pendant longtemps.
Oui, exactement.
De divertissement de qualité et surtout d'information.
Ouais.
Ce rôle-là est important.
Ça a été un élément de ciment social aussi au Québec.
Là où je me pose des questions, c'est que je trouve que ces rôles essentiels de la radio s'en vont tranquillement du côté pur divertissement.
Bien, on peut... j'ai un espoir que je place dans les balados. Ça dépend lesquels. Encore une fois, il n'y a pas de... il n'y a pas de règles.
C'est pas la chose qui fait son utilisation.
Non,
hein?
C'est ce qu'on en fait, effectivement.
Pour tout,
c'est
pour tout sur la planète.
Mais l'avantage du balado, c'est quand même une flexibilité qui est beaucoup plus grande. Une radio comme Radio-Canada, mais je veux dire Radio France ou tellement d'autres à travers le monde, les journaux même maintenant peuvent faire des émissions de radio et plusieurs émissions de radio et de les décliner de différentes façons sans avoir la contrainte du 24 heures dans une journée puis des heures de grande écoute puis de faible écoute.
C'est exactement comme à la télévision, on donne enfin la liberté à l'auditeur d'écouter ce qu'il veut
quand il veut, comme on le fait maintenant à la
télévision.
Aussi.
Oui, c'est vrai. Peut-être ça comporte certains inconvénients d'une certaine manière, mais en même temps, il y a à travers tout ça des émissions d'une qualité exceptionnelle qui sont faites et qui pourraient presque pas à être diffusé à la radio. Justement, des émissions du genre une heure sur un sujet, une entrevue
ça
où on va à fond.
Ça pourrait pas être diffusé à la radio. Tu m'auras pas là-dessus.
Mais pourrait, je veux dire, certains voudraient pas que ça soit diffusé à la radio. C'est reformulé. mais là, on laisse cette liberté-là en ce moment. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens de différentes générations qui en écoutent.
Mais ce que j'entends aussi, c'est la responsabilité, elle n'est pas seulement à ceux qui ont le micro, c'est la responsabilité des diffuseurs, en fait, de permettre un contenu diffère largement.
Et tu peux aller plus loin. Oh, la responsabilité de l'auditeur.
De l'auditeur de demander.
Ça, de choisir
ces
choses.
Vous avez le droit de demander ce que vous voulez entendre à dans tous les vecteurs de communication, d'information ou autre, c'est un choix. Est-ce que vous écoutez le plus? Est-ce qu'on décide de mettre le plus d'argent dedans? Donc,
ben oui,
on peut inverser.
C'est voter. Écouter, c'est voter.
Exactement.
Dans ce cas-ci.
Hugo, on est à la 8e édition de la Journée mondiale de la radio aujourd'hui. Donc, selon toi, on se rend à la 100e?
Ah, moi, j'ai aucun doute là-dessus. Si on passe en particulier par le balado, comme on disait, c'est-à-dire ce média qui est si bien adapté au monde actuel où on peut écouter en surfant sur Internet, si on veut, en se promenant en voiture, en marchant, en faisant d'autres choses, ben ça, là, je pense qu'il y a un avenir très, très certain et long.
En terminant, moi, j'ai très hâte que tes capsules fassent une heure.
Ah ben c'est vraiment gentil. C'est vraiment gentil.
Justement, on peut t'entendre du lundi au jeudi. C'est à 6h50 que tu nous offres ta chronique urbaine. Tu nous parles des meilleures histoires dans le Grand Montréal accompagnées de points de vue originaux, insolites et humains. Hugo Lavoie, merci beaucoup d'avoir
été
là.
Merci à vous deux. Merci beaucoup.
Salut.
Déjà presque tout pour Aime la vie. Vous pouvez continuer à aimer la vie sans nous quand même. C'est permis, c'est souhaité en fait.
Neige, pas neige.
Neige, pas neige.
As-tu mis tes pneus à neige sur ta chaise?
OK, vieille comme le monde.
Ah, je sais.
Vieille comme...
Ben, moi aussi, qu'est-ce que tu veux, je te dis.
Robert, merci beaucoup d'avoir été là encore prochaine. Cette semaine. Merci à Maurice Bolduc en régie. Merci Catherine Bourderon à la recherche. Merci également à Hugo d'être venu nous voir en studio. Ça a été une très belle discussion, beau moment de radio. Merci à tous d'avoir été là encore cette semaine et on se dit à la semaine prochaine.